le garçon nommé Corbeau. Le garçon nommé Corbeau volait lentement en dessinant de larges cercles au-dessus de la forêt. Quand il avait fini de décrire une boucle, il en traçait consciencieusement une autre, identique, un peu plus loin. Et tous ces cercles apparaissaient tour à tour dans le ciel, puis s'évanouissaient. Le regard du garçon nommé Corbeau, comme un avion en reconnaissance, observait attentivement le monde en contrebas. Il paraissait chercher quelqu'un ou quelque chose qu'il avait du mal à localiser. La forêt ondulait sous ses yeux comme une mer immense. Les branches vertes s'entrecroisaient, se superposaient, enveloppant la forêt d'un manteau anonyme. Le ciel était couvert de nuages gris et il n'y avait pas un souffle de vent. Même la grâce de la lumière lui était refusée. À ce moment, le garçon nommé Corbeau était sans doute l'oiseau le plus solitaire qui exista sur la terre. Cependant, il n'avait pas le temps de s'apesantir là-dessus. Finalement, il découvrit une déchirure dans l'océan d'arbres en contrebas et piqua droit vers elle. Une petite clairière s'ouvrait juste à cet endroit. Un faible soleil brillait sur ce coin de terre où des herbes d'un vert vif avaient poussé comme un présage. Il y avait une grosse pierre ronde au milieu de cette clairière sur laquelle un homme était assis. Il portait un survêtement rouge vif et était coiffé d'un chapeau de soie noire. Un sac de toile kaki était posé à ses pieds, chaussé de souliers de montagne à semelles épaisses. « Drôle de tenue, » remarqua le garçon nommé Corbeau, qui par ailleurs s'en moquait éperdument. Car c'était la personne qu'il cherchait, et peu lui importait la façon dont elle était habillée. Au battement d'ailes, l'homme leva les yeux et aperçut le garçon nommé Corbeau perché sur une grosse branche au-dessus de lui. « Salut !» fit l'homme d'une voix enjouée. Le garçon nommé Corbeau ne répondit pas. Perché sur sa branche, il regardait l'homme sanciller d'un regard inexpressif. De temps en temps, il inclinait la tête de côté. « Je sais qui tu es !» dit l'homme. Il souleva légèrement son chapeau, puis le remit sur sa tête. « Je me disais bien que tu n'allais pas tarder !» Il toussa, fit une grimace, cracha par terre. Puis il frotta le sol avec ses semelles pour effacer la trace de son crachat. « Je faisais une petite pause, mais je m'ennuyais un peu, à force de n'avoir personne à qui parler. « Si tu venais bavarder un peu ici, avec moi, qu'en dis-tu ? C'est la première fois qu'on se voit, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit des étrangers l'un pour l'autre. » Le garçon nommé Corbeau, les ailes repliées contre lui, gardait un silence obstiné. L'homme au chapeau de soie secoua légèrement la tête. « Ah, je vois, tu ne peux pas parler. Tant pis, je parlerai tout seul. » « Je sais ce que tu t'apprêtes à faire, même si tu ne dis pas un mot. Tu n'as pas envie que j'aille plus loin, c'est ça ?»« Je le sais. Je le devine. Tu ne veux pas que j'avance au-delà de ce point. Mais moi, je veux continuer. C'est une occasion unique et je n'ai pas l'intention de la laisser passer. Une occasion comme on n'en rencontre qu'une fois tous les 1000 ans. » Il frappa sur les tiges de ses chaussures de montagne, à la hauteur des chevilles. « Bon, commençons par la conclusion. Tu ne peux pas arrêter ma progression. Tu n'en as pas le pouvoir, voilà pourquoi. Imaginons que je me mette à jouer de la flûte, ici même. Tu ne pourras pas t'approcher de moi. Je ne sais pas si tu es au courant, mais mes flûtes ont des pouvoirs vraiment particuliers. Rien à voir avec les instruments ordinaires. Et j'en transporte quelques-unes dans mon sac. » L'homme tendit la main, tapota le sac à ses pieds comme s'il contenait un trésor, puis leva à nouveau la tête vers la branche où le garçon nommé Corbeau était perché. « Je les ai fabriquées avec des âmes de chat. J'ai dû leur arracher leurs âmes de leur vivant pour fabriquer ces instruments. J'étais vraiment navré pour ces malheureuses bêtes, mais je ne pouvais pas faire autrement. Ces flûtes, vois-tu, sont au-delà du bien et du mal, de l'amour et de la haine ou de tous ces jugements humains ordinaires. Pendant longtemps, les fabriquer a été mon unique but dans l'existence. J'ai eu une vie dont je n'ai pas à avoir honte. Je me suis marié, j'ai eu des enfants et j'ai confectionné ces flûtes. Entre nous soit dit, j'ai l'intention d'en mettre une au point qui aura une portée encore plus grande que toutes celles que j'ai conçues jusqu'à présent. Une flûte super puissante, de qualité supérieure, qui sera un système entier à elle seule. Et je suis en train de me diriger vers le lieu où je pourrai enfin la mettre au point. Ce n'est pas moi qui déciderai si cette super flûte sera utilisée pour faire le bien ou pour faire le mal. Et ce n'est pas toi non plus, bien sûr. Cela dépendra simplement de l'endroit où je me trouverai. En ce sens, je suis un homme absolument sans préjugés. Comme l'histoire ou le climat, je ne cherche à porter préjudice à personne. C'est pour cela que je peux devenir un système, parce que je n'ai aucun préjugé envers quiconque. Il ôta son chapeau, frotta un moment les cheveux clairsemés qui ornaient le sommet de son crâne, puis remit son chapeau en place, en rajustant le bord du bout de ses doigts. « Si je me mets à jouer de la flûte, je n'aurai aucun mal à te chasser. Mais je préférerais éviter de me servir de mon instrument maintenant. Je préfère économiser mes forces pour plus tard. Et puis, que je joue de la flûte ou pas, en fin de compte, tu ne pourras pas m'arrêter. C'est évident pour tout le monde. » Il toussa une fois de plus, puis caressa plusieurs fois son ventre protubérant à travers sa chemise. « Dis, tu sais ce que c'est que les limbes ? C'est le no man's land qui s'étend entre le monde de la vie et celui de la mort. Un lieu triste, aux contours indistincts. Autrement dit, c'est l'endroit où je me trouve en ce moment. Cette forêt. Je suis mort. Oui, mort de ma propre volonté. Mais je ne suis pas parti pour l'autre monde. Je suis une âme errante. Et les âmes errantes n'ont pas de forme. J'ai juste emprunté une forme provisoire. Voilà pourquoi tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux pas me blesser. Tu comprends? Même si je perdais une abondante quantité de sang, ce ne serait pas du vrai sang. Même si je souffrais, ce ne serait pas une souffrance réelle. Le seul qui puisse m'éliminer maintenant, c'est celui qui en a le pouvoir. Et malheureusement, ce n'est pas toi. Toi, tu es une simple petite illusion immature de rien du tout. Tu as beau me détester de toutes tes forces, tu ne peux pas me tuer. » L'homme adressa un large sourire au garçon nommé Corbeau. « Alors, tu veux tenter ta chance quand même ?» Comme si ces mots étaient un signal, le garçon nommé Corbeau étendit ses ailes, quitta sa branche et fondit sur l'homme en ligne droite. Il planta ses serres dans sa poitrine, ramena la tête en arrière, puis enfonça de toutes ses forces son bec acéré dans l'œil droit de l'homme, comme s'il maniait un pic à glace. Pendant tout ce temps, il battait l'air bruyamment de ses ailes noires. L'homme ne fit pas un geste pour se défendre. Il se laissa faire sans bouger un doigt, sans pousser un gémissement. Au contraire, il éclata même de rire. Son chapeau roula à terre, son globe oculaire fut arraché et roula hors de l'orbite fendue. Le garçon nommé Corbeau attaqua ainsi les deux yeux de l'homme, de toutes ses forces. Il n'y eut bientôt que deux cavités sombres, après quoi le garçon nommé Corbeau se mit à donner des coups de bec dans le visage de l'homme, qui ne fut bientôt plus qu'une immense plaie d'où jaillissaient des geysers de sang. Son visage n'était plus qu'une bouillie rouge. Des lambeaux de peau et des morceaux de chair pendaient çà et là. Le garçon nommé Corbeau planta sans pitié son bec sur le crâne aux cheveux clairsemés. Mais l'homme continuait à rire, comme si tout cela était si drôle qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Plus les attaques du garçon nommé Corbeau augmentaient de violence, plus le rire de l'homme se faisait homérique. Malgré ses orbites vides, Son regard ne lâchait pas le garçon nommé Corbeau. Et il parvint à articuler quelques mots entre deux éclats de rire.
« Allez, je te l'avais bien dit, non ? Arrête de me faire rire ! Tu auras beau y employer toute ton énergie, tu ne pourras pas me blesser. Tu n'en as pas le pouvoir. Tu n'es qu'une petite illusion sans relief, un vague écho lointain. Tout ce que tu peux tenter contre moi est vain. Tu ne l'as donc pas encore compris ?»
Cette fois, le garçon nommé Corbeau visa cette bouche de son bec. Il agitait toujours violemment ses grandes ailes. Quelques plumes d'un noir lustré qui s'en étaient échappées voletaient autour de lui comme des morceaux de son âme. Le bec du garçon nommé Corbeau fendit la langue de l'homme, se planta dans la déchirure, puis arracha l'organe en tirant de toutes ses forces. Cette langue, longue et épaisse, même une fois hors de la gorge de l'homme, continua à se tortiller dans les airs comme un énorme mollusque en prononçant des paroles de ténèbres. Sans langue, cependant, cet homme ne pouvait plus rire. Il ne pouvait plus respirer non plus, semblait-il. Il se tint cependant les côtes encore un moment, comme s'il riait encore. Et ce rire silencieux résonnait dans les tympans du garçon nommé Corbeau. Ce rire creux et sinistre continuait à enfler à l'infini comme des rafales de vent dans un désert lointain. Et on eût dit le son d'une flûte d'un autre monde.